Les pieds sur terre, quartier d'été, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'histoire se passe à Bruxelles où s'installent depuis une dizaine d'années artistes, étudiants et créateurs français en quête d'espace et de loyers modérés. À moins de 40 ans, la jeune femme devient propriétaire de l'appartement idéal au dernier étage d'un immeuble avec une baie vitrée donnant sur une grande terrasse dominant la ville. Peu de temps après, une femme s'installe en dessous de chez elle. La chambre de la nouvelle arrivée se trouve également en dessous de la terrasse. Un soir que la jeune Française y dîne avec des amis, ils entendent soudain une furie monter les escaliers, ouvrir la porte comme si elle était chez elle et hurler, hargneuse et rouge de colère, « Fabienne, ça n'est pas possible ». Fabienne Lemonnier, c'est ainsi qu'elle s'appelle, la calme en promettant des travaux d'insonorisation. Elle installe des blocs silence pour atténuer les bruits de contact qui lui coûtent 600 euros chacun. Mais la voisine trouve toujours la terrasse trop bruyante. Alors Fabienne fait réaliser des mesures acoustiques et son appartement apparaît aux normes. Mais elle est sommée à présent de porter des chaussettes à l'intérieur et d'isoler les pieds des chaises. En conseil de copropriété, la voisine demande aux autres de porter plainte contre Fabienne. Ils refusent. La Française propose alors d'isoler le plafond de la voisine, qui d'abord refuse en hurlant. Un an après, elle accepte, les frais sont partagés, mais le résultat ne convient toujours pas à cette voisine qui se remet à hurler. Elle se met alors en tête que l'appartement de Fabienne, un ancien grenier, a été lui-même mal isolé. Elle essaie de faire annuler le permis d'urbanisme. Les services contactés par ses soins viennent vérifier, l'appartement de Fabienne est en ordre. Comme Fabienne fait avec Paris de fréquents allers-retours, la voisine alors la dénonce à la commune de Bruxelles en disant qu'elle n'habite plus là. C'est alors que Fabienne décide de vendre. Plus tard, elle apprendra qu'après la vente de son appartement, la voisine a mis le sien en location. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, on comprendra pourquoi Fabienne Lemonnier, notre reporter, a eu envie de vous raconter deux autres histoires de voisinage. C'est tout de suite sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Alors voilà, moi j'étais arrivée à Montreuil avec ma fille qui a, à l'époque, quand j'ai déboulé à Montreuil, elle avait 11 ans, 12 ans. Mais je ne connaissais pas la banlieue. Et je suis restée là parce que ma fille tenait, c'est une idée fixe, elle voulait faire du cirque. Donc c'est la raison pour laquelle je suis restée à Montreuil, dans un premier temps. Dans un petit appart, minus, minable, bon, bref, j'y suis restée un an et demi. Et ensuite, par un hasard complètement fou, j'achète, en reculant en voiture dans un sens interdit, une petite baraque que j'ai refaite, aménagée, qui était une vieille mémé qui habitait là-dedans, enfin bon, et que j'ai revendue. Et en revendant cette baraque, j'ai eu de quoi acheter un espace ici, c'est-à-dire 200 mètres carrés au sol, dont j'ai fait 350 mètres carrés après. On a acheté cet espace à trois. Le photographe à côté, moi j'ai pris celui-ci, qui avait beaucoup moins d'aménagement, il y avait juste un gros cube vide, sur la terre battue en partie, et ma voisine, du coup, était sur l'autre côté. Donc c'est 850 mètres carrés. Au départ, c'était une usine de fonderie d'aluminium. C'était une ruine. Hein. Chez moi, la partie, il y a la toiture qui était à moitié qui tombait. Il n'y avait pas de mur sur le côté. Il y avait la vie de péril de la mairie. Il y avait... Alors, donc avec la voisine, on avait décidé qu'on démolissait un bâtiment entre nous et qui serait... vraisemblablement le jardin entre nous, mais on ne savait pas où on allait mettre encore complètement nos façades. Donc devant le notaire, on avait laissé ouvert, on devait y repasser plus tard pour redéfinir les parcelles une fois qu'on avait complètement décidé de la situation du jardin commun, c'est-à-dire une zone commune en copro. Bon. Donc on a fait nos constructions, on a établi nos lieux de vie, nos espaces et un lieu du jardin commun. Et il s'est avéré qu'il était principalement sur sa parcelle. Pas complètement, mais principalement. jusque là tout s'est passé, mais c'était super. Elle avait deux fistons, il y en a un qui était en classe et il allait au bahut avec Chloé, ma fille. Et donc au début ça a été super bien, on est parti dans un chantier, tout le monde s'est mis à bosser là-dedans, c'était la cour des miracles, il y avait une vingtaine de personnes qui bossaient tous dans les coins, on en croisait un, on lui parlait. Et on était des nanas seules, sauf Bousquet, le photographe qui n'était en gros jamais là parce qu'il bossait. Et il venait tous les deux mois, ou quelque chose comme ça. Et puis, il payait l'avancement des travaux à mesure. Donc on a fait des tas de travaux dans tous les sens. Elle venait aussi bien, elle a dormi chez moi longtemps. Les garçons aussi, c'est arrivé quelque part. Ensuite, on a mis un piano dans l'atelier. Son fils jouait du piano. Il n'arrêtait pas de venir jouer du piano avec les potes. Et on a fait des tas de spectacles, des présentations, des concerts, des trucs dans l'atelier. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et elle y était. Elle était partie prenante. Elle venait, elle aidait. Ça circulait tout en ayant des zones indépendantes. Voilà. Et puis, une fois que ça a été un peu fini, elle voulait faire un voyage en Chine. Donc, elle est partie en Chine. Puis, elle revient, je me souviens. Elle s'assoit dans le jardin et il faisait vachement beau. Elle dit, oh, c'est quand même un vrai paradis qu'on a fait là. Et puis, elle rêvassait. Elle dit, mais je sais pas quoi faire de ma vie. Et là, je me suis dit, ouh, oula. Enfin, je sais pas, il y a eu une espèce de fulgurance. Je me suis dit, ouh, mon Dieu. Bon. Et puis, j'étais quand même très prise. J'avais beaucoup de choses à faire. Ma fille aussi, donc elle rentrait à l'école. J'ai pas accordé suffisamment d'importance à différentes choses comme ça. Et puis, le temps passe un peu. Voilà, 5-6 mois. On n'était toujours pas allé chez le notaire parce qu'on n'avait jamais le temps. Et puis on avait des aménagements dans le jardin. Alors, il y a un truc, moi j'avais. Ma façade était plein soleil, la sienne était au nord. C'est 100 mètres carrés le jardin. Hein. Donc j'avais un espace terrasse, moi de mon côté. Elle avait son espace terrasse, on s'invitait, on lui dit, tiens, ben, viens au soleil, là, ouais, ok. Ou alors elle me disait, je crois que je vais venir au soleil. Ok, pas de problème, enfin, bon. Et puis, c'était 6 mois après la Chine. J'étais partie, je crois, pendant un moment. Je reviens, je vois devant les fenêtres, je vois un panneau. Jardin privé, il est interdit de sortir sans autorisation. Mais c'est un gag. Donc je suis restée verte. J'ouvre la porte, je pousse le panneau. Elle était de l'autre côté, elle me regardait avec un drôle d'air. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Ben oui, ben c'est sur mon terrain. Écoute, depuis le temps que tu me dis, chez le notaire, on va y aller. Ah mais non, ça me va très bien comme ça. Je dis, quoi, ça devient très bien comme ça? Ça va pas à la tête. Elle me dit, mais non, c'est mon jardin. Je dis, non, mais attends, là, tu vas pas bien. Tu rêves, qu'est-ce qui te prend? Moi, je prends ça pour une trahison pure et simple. Elle me regarde, elle me toise, et elle me dit, peut-être, et alors? Avec un grand sourire. Et alors là, je me suis vidé de mon sang, je me dis, je l'incruste dans le mur et j'en fais un fossile. Elle disait, le panneau c'était, on ne sort pas dans le jardin sans autorisation. Et elle dit, je veux plus qu'on vienne dans mon jardin. J'avais fait une façade avec les fenêtres, les portes et tout sur le jardin. Sinon j'aurais jamais acheté cet espace. Sans ça, moi j'étais sans fenêtre. Sans porte, sans aération. J'étais dans un cube fermé, bloqué. Un cercueil, quoi, en gros. Elle le savait pertinemment. Alors, il y avait eu tout un jeu. Depuis un moment, on se dit, bon, il faut aller chez le notaire. Elle m'avait dit, mais je m'en occupe. Ok. Et puis je lui dis, t'as téléphoné au notaire pour qu'on y aille? Oui, mais il n'avait pas le temps, puis il était en vacances. Et puis ça a duré comme ça 6 mois. Après, je lui dis, écoute, moi, je vais téléphoner. Et puis... Il m'a dit, elle m'a téléphoné une fois, puis elle ne m'a jamais retéléphoné. Oh! J'aurais dû prendre deux copains qui l'auraient prise de chaque côté en lui disant, bon, on va chez le notaire et cocotte. Hein. Et je crois que là, à ce moment-là, c'était possible. Elle a commencé à prendre un avocat, donc je me suis retrouvée dans la position où j'ai dû aussi prendre un avocat. Elle m'a assigné en justice, en fait, carrément. Elle m'a demandé de mettre un mur devant, de boucher les fenêtres. Les fenêtres, la porte, tout. C'était terrifiant. Sous peine d'une amende de 150 euros, c'était pas en euros, 150, je ne sais plus combien par jour. Bref. Et donc là, il a fallu que je prenne un avocat pour me défendre. J'ai eu la chance de rencontrer un jeune mec à qui j'ai raconté l'histoire. Il n'avait pas beaucoup plaidé, il n'y a pas longtemps qu'il sortait de l'école d'avocat. Et il me dit, ben, c'est pas une histoire facile, mais ça m'intéresse. Et je lui ai dit banco. Je suis partie avec ce mec. Et vraiment, il y a eu une collaboration complète. Un type super. Lui, c'était une des premières affaires un peu importantes qu'il faisait. Et c'était une espèce de point d'honneur. Et effectivement, intellectuellement, c'était de loin pas gagné. Parce qu'on avait, ben, il y avait la loi, il y avait la séparation par le cadastre, en gros, de l'espace de l'un et de l'autre. On n'avait aucune preuve officielle qui retrace la trame de ce que fut ce magnifique projet. Mais c'est plus tard, au cours du procès, qu'on a retrouvé un travail d'architecture fait par des jeunes qui habitaient chez moi et dont le sujet était les transformations d'une usine achetée en copropriété ou par des propriétaires différents, avec création de jardins et aménagement d'espaces privés. Si c'était pas un truc officiel, c'est un travail d'école, mais à l'école d'architecture. Et on a fait ressortir ça, ça a énormément joué. Premier passage au tribunal, je perds, avec obligation de fermer les fenêtres et de ne plus avoir le droit de regarder chez elles. Donc là, on discute avec l'avocat et on dit, bon, il ne s'agit pas de murer. Puisqu'elle ne veut pas voir, on met une pellicule opaque sur toutes les fenêtres avec un huissier et on ne voit plus. On met des scellés sur les fenêtres et sur les portes et on ne voit plus chez elle et on ne peut plus sortir. Donc on s'en mure nous-mêmes. Mais on garde la lumière, sinon on était dans le noir. En un an et demi, on a été comme ça. On ne pouvait pas ouvrir les fenêtres. On ne pouvait plus mettre le nez dehors, ni rien. On était tous dépités, mais on a continué à faire des fêtes. On a continué les trucs. Et ça m'a permis de tenir. Beaucoup, beaucoup. Elle entre-apercevait ou savait qu'il y avait des fêtes derrière les fenêtres, mais elle y était exclue. Donc ça a fait redoubler sa jalousie et sa haine. Donc, elle a demandé à ce que les fenêtres soient murées. Cette fois-là, elle a perdu. On est resté pendant un an et demi avec les fenêtres libres de regarder sur le jardin et on avait le droit de les ouvrir. Alors, elle est allée acheter. Ça s'appelle de la haie éternelle. C'est-à-dire, ce sont des palissades, comme les lieux publics, des palissades en métal dans lesquelles on met un camouflage. Et elle nous a collé ça à 30 cm des fenêtres. Donc, de nouveau, on ne voyait plus rien. Donc, il a fallu faire un référé. Elle a refait appel. Ensuite, madame s'est mise en tête de faire un immeuble mitoyen contre mes fenêtres de 18 mètres de haut. Elle avait monté une SCI, elle a demandé un permis de construire. Elle a eu, mais pas de bol, elle n'a pas osé mettre le panneau. Voilà, le permis de construire saute. Donc là, dépité, elle met en vente. Et 6 mois plus tard, ça a été racheté par des gens, je pense qu'elle connaissait par Air France, qui rachètent le truc, qui reprennent le procès. Donc on a dû continuer cette histoire de procès avec eux. Donc on est reparti une deuxième fois en cassation, et la Cour de cassation a refusé et a dit que cette histoire était terminée et qu'il n'était plus question d'aller relancer ça à la justice. Cette cassation terminait complètement le procès, il n'était pas question de revenir en arrière. Terminé. Pas tout mon temps pendant 8 ans, mais ça a été une préoccupation permanente, une vigilance permanente, une présence de haine permanente. Mais c'était absolument une horreur. Quand je la voyais, mais je l'ai revue une fois ou deux à Montreuil, évidemment, il passe des tas de trucs dans la tête, de lui cracher à la gueule, de lui, enfin bon, au sens propre et figuré. Mais à quoi ça sert? Ça sert strictement à rien, c'est débile. Elle a été rattrapée par cette histoire d'enfance et c'est devenu une pauvre conne, quoi. C'est devenu vraiment une pauvre connasse.
France Culture, les pieds sur terre.
Alors j'ai acheté cette maison pour pouvoir vivre, parce qu'en fait, il faut que je vous explique peut-être depuis le début. J'ai vécu dans la région parisienne et j'ai voulu prendre ma retraite quand même en bord de mer. Et j'ai trouvé une petite maison par hasard, simplement sur internet, dans un petit village à l'intérieur des terres, à environ une dizaine de kilomètres de la mer. C'était une petite maison sympathique, suffisante, un petit peu fin, simplement pour moi ça me suffisait, avec la possibilité de l'aménager, et j'avais quand même 700 mètres carrés de terrain à côté, donc ce qui me permettait de voir un peu l'avenir, suivant mes envies en fait. Donc j'achète une petite maison avec simplement les entrées, toutes les entrées donnent sur la cour des voisins. Je suis obligé de passer chez les voisins pour rentrer chez moi. Donc pour moi, la situation était relativement simple. J'ai supprimé l'entrée de donnant sur la cour des voisins et je ne passais plus chez eux. Donc il n'y avait aucun problème. L'ancien propriétaire avait déjà commencé à clôturer son terrain. J'ai continué à clôturer mon terrain. Et ça n'a pas plu du tout aux voisins parce qu'ils avaient l'habitude de passer sur mon terrain pour rentrer chez eux. Alors qu'ils avaient quand même 3 entrées sur la voie publique. Mais bon, ça, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Ils avaient des envies de passer chez les voisins. C'est peut-être plus pratique pour eux, je ne sais pas. Les voisins, c'est un couple qui sont près de la retraite, qui donc sont famille d'accueil de personnes handicapées. Ils habitent à une 60aine de kilomètres de Paris et ils viennent aux grandes vacances. La première rencontre, elle a eu lieu par téléphone. C'était une dame, si je me souviens bien, qui parlait. J'ai pas pu en placer une, donc j'ai compris que je me faisais insulter pour avoir changé simplement les habitudes, hein. Le premier mensonge, quand même, ils vont inventer en disant que leurs pensionnaires normaux, comme vous et moi, ils se déplacent normalement, ils vont au bistrot, ils vont se promener, sont des personnes en fauteuil roulant, comme ça. Pourquoi? On ne sait pas. Et à partir de là, dans une dizaine de jugements, leur avocat maintiendra fermement que mes voisins, en fait, sont en fauteuil roulant et que je les empêche d'aller à leur jardin aussi bien que de sortir de la maison. Ça dépasse l'imagination quand même. Oser prendre des personnes physiquement normales et les transformer en personnes en fauteuil roulant pour défendre des droits immobiliers. Ensuite, il y a eu un deuxième mensonge. Alors, ils vont retrouver, en fouinant un petit peu dans les actes de notaire, un ancien acte Et à partir de cet acte de vente, ils vont inventer un droit de passage dans mon logement pour aller au jardin. Ah, donc vous voyez ici le nombre de dossiers qu'il peut y avoir. Alors les jugements ici, les jugements et les autres aussi. Alors, le premier, l'ordonnance déjà, si vous voulez voir. Voilà, je lis. Le juge me demande de supprimer la clôture et de remettre toutes mes parcelles dans leur état d'origine de façon à ce que les voisins puissent passer pour aller où bon leur semble, en fait. J'avais construit un petit abri de jardin qui dépassait de 45 cm sur leur prétendu passage. Ils avaient une largeur de 4 mètres de libre. Et ils ont dit que les fauteuils roulants des handicapés ne pouvaient plus passer à cause de cette construction dépassant de 45 cm sur une largeur de 4 mètres. Voilà ce genre de délire qu'on peut trouver écrit, sur tous les jugements.
Alors la condamnation, c'est bien sûr, vous avez une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la date de l'ordonnance. Je sais pas, ça peut pas...
Ça fait 4 ans depuis de mai 2012 que j'ai acheté cette maison et ça fait vraiment 3 ans que je suis en procès avec les voisins. J'ai fait intervenir un conciliateur local, le médiateur de la justice, j'ai fait intervenir la mairie, le notaire, j'ai fait intervenir des voisins. Il n'y a pas eu de possibilité de discussion de quoi que ce soit. On a dû avoir 30 secondes de parole depuis 4 ans, quoi, en fait, c'est tout. Les seules relations que j'ai, ce sont des convocations au tribunal. J'en ai une trentaine, en gros. Il y a une trentaine d'audiences qui sont, en fait, c'est complètement dément. Les jugements sont faits uniquement à partir d'inventions. Ah ben tout le monde s'en fout, ça c'est évident. Bon, on n'existe pas, il faut quand même être réaliste. Vous n'existez pas pour la justice, vous êtes un petit pion comme tout le monde. C'est une affaire de justice qui aurait pu être rendue en 2 minutes. C'est tout à fait enfantin. Et j'ai été pris dans des rouages et j'ai été broyé carrément. Là, ce n'est plus de la folie, c'est de... Je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça me tue réellement, ça me bouffe la vie. Je ne vis plus, je ne peux plus vivre. De toute façon, 24 heures sur 24, Mais maintenant, je ne sais pas, ils vont me confisquer je ne sais pas quoi d'ailleurs. Peut-être bien à la maison, pourquoi pas. Le voisin, il m'a dit, de toute façon, monsieur Petit, je vous ferai vendre la maison. C'est un accident, de toute façon, je considère ces affaires comme un accident. Un simple accident. Vous avez un accident de route. Là, j'ai eu un accident de vie, tout simplement. Une mauvaise rencontre. Comment on peut en faire sur la route un jour? C'est la vie, c'est comme ça. Que peut-on dire à des gens qui délirent? Pas grand-chose.
Lay down in the tall grass, in the flat-bottomed boat. You lay down and wait for you, with nothing but a piece of rope. Dreaming every night of you, shaking at the sight. I'll be dreaming every night of you, I'll be shaking at the sight of you. Will you beg for forgiveness? Will you pray to be saved? Or will you choke your children when they spit in your face? Dream on every night of you, shaking at the sight. I'll be dreaming every night of you, I'll be shaking at the sight. I dreamt you found me out in the field, you tripped over my sight, and you dug me out of a shallow grave with your Swiss Army knife. And only you could revive me, so badly decomposed I was bone white, dry and scaly. But you still took me home, dreaming every night of you, shaking at the sight of you. I'll be dreaming every night of you. And how can you be so serene? Motivation unclear. In a late basement seance that brought us to tears. Dream on every night of you, shaking at the sight. Oh, I'll be dreaming every night of you, I'll be shaking at the sight. And I dreamt you found me out in the field, you tripped over my sight, and you dug me out of a shallow grave with your Swiss Army knife. And only you could revive me, so badly decomposed I was bone white, dry and scaly.
C'était Les Pieds sur Terre, quartier d'été avec Les Voisins, reportage Fabienne Lomonier, une émission réalisée par Marie Placet, Delphine Lemaire et un coup de main de David Jacques-Bouvier. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 3 mai 2016. Jeanne Delecroix, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Zoé Marie Roulier, c'est notre stagiaire. Et Sandrine Chaperon n'est jamais loin, heureusement.